are watching. Sometimes I wonder about you. Are you racing or watching?
La dispute. Ce soir, les arts plastiques. Ce soir, Corinne Rondeau et Jean-Max Collard se font face à notre affiche. Hubert Robert, un peintre visionnaire, c'est au musée du Louvre. Le douanier Rousseau, l'innocence archaïque, au musée d'Orsay. Nous évoquerons aussi plus rapidement le magicien d'Os. Sculpture de Quentin Garrel au Muséum National d'Histoire Naturelle et Shelters, exposition d'Oscar Toisson à la galerie Chantal Crouzel. Vers 21h20, Antoine Guillou nous livrera la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Encore des cadeaux à gagner. Grâce au jeu de la dispute ce soir, des places de cinéma pour le film In Jackson Heights de Frederick Wiseman, sorti aujourd'hui dans les salles. Enfin, nous avons rendez-vous avec le comédien et metteur en scène Clément Hervieux-Léger, qui est toute cette semaine l'invité de la dispute. Et nous ouvrons cette dispute en nous rendant au musée du Louvre pour une exposition consacrée à celui qui fut un temps conservateur de ce musée, Hubert Robert. On le limite souvent à son image de peintre des ruines, notamment du fait de son célèbre tableau « Vue imaginaire de la galerie du Louvre en ruine ». L'exposition, conçue par Guillaume Farou, qui avait déjà été le commissaire de celle de Fragonard au musée Luxembourg il y a quelques mois, montre l'étendue de la palette et du répertoire de Robert. C'est une première pour Hubert Robert depuis 1933 et l'exposition est réalisée en association avec la National Gallery of Art de Washington. 140 œuvres, dessins, peintures, gravures, peintures aussi monumentales. Hubert Robert au musée du Louvre. J'ai eu la joie, Corinne Rondeau, de découvrir cette exposition en même temps que vous, parfois à vos côtés. On se croisait dans les espaces, dans cette aile Napoléon. C'est bien aile Napoléon.
Hein. Le hall.
Le hall. Hall. Enfin, c'est l'aile aussi et le hall Napoléon. On est d'accord. Premières impressions sur cette exposition, Corinne.
Eh bien oui, on découvre la totalité du travail de Hubert Robert. Effectivement, on est toujours un petit peu figé sur ces ruines. Dans la mesure où, en fait, c'est surtout un peintre, de mon point de vue architecte, et d'ailleurs, je rejoindrai la position d'une dame, avis important, est-il écrit dans le catalogue d'une femme, au salon de 1785. C'est un homme d'esprit et de goût qui peint, mais ce n'est point un peintre. Alors, je ne suis pas sûre que ce ne soit pas un peintre, mais par contre, il y a un goût vraiment pour l'architecture, d'ailleurs, il le dit lui-même. Et donc, on voit l'étendue de son travail, et on voit aussi l'amplitude par les formats de tout ce qu'il va être sa carrière, parce que c'est une carrière quand même, savoir des heures évidemment, mais aussi des projets, des charges administratives qui ne cessent de s'accumuler. Alors voilà, après Le Nôtre, ce sera Le Dessinateur des Jardins du Roi, 1784. Il est proche du roi, donc c'est un homme qui va vivre très longtemps, justement au bord des fenêtres de la cour carrée du Louvre. Donc c'est l'ombre du, on va dire que l'ombre, le peintre et l'ombre du peintre du Louvre, c'est Hubert Robert, puisqu'il aura été aussi non seulement ce dessinateur, mais aussi celui qui va penser dès 1780 l'aménagement et la planification de ce qui représente aujourd'hui le Louvre, c'est-à-dire le Palais Royal à l'époque, l'aménagement de la Grande Galerie, il y a des tableaux là-dessus. Et puis il aura été, après la Révolution française, d'ailleurs heureusement que Robespierre se fait couper la tête parce qu'il a dû voir la lame passer de très près.
Oui.
Il est arrêté en 1793, en octobre, il est libéré en août 1794. Et donc il deviendra en 1784, le conservateur du musée, du Muséum des Arts. Voilà, il a eu des charges énormes et on le voit vraiment dans son travail. Ce qu'on voit aussi, c'est tout son début, je dirais, cette formation à Rome, le goût pour l'antiquaire, etc., qui est très marqué, et dans l'époque, et dans son travail. Alors moi, j'ai pris beaucoup de plaisir, parce que finalement, j'ai découvert autre chose, et je dois dire que lorsqu'on a toujours... vous savez, Hubert Robert, vous pensez toujours au salon de Diderot, alors évidemment, le précurseur du romantisme, le côté mélancolique de la peinture, les ruines, etc. Et en fait, cette exposition... Je ne veux pas remettre en question ce que font les historiens, je ne suis moi-même pas historienne, donc je ne vais pas remettre en question ce qui a pu être écrit, ni remettre en question ce que pouvait statuer sur la peinture de ruines sur Hubert Robert de la part de Diderot. Mais je trouve que si Diderot pensait à de la mélancolie, je veux dire, moi, ce n'est pas du tout ça. Et d'ailleurs, la musique que vous avez mise sur l'entrée pour parler de l'exposition, il aurait fallu mettre un grand coup de vent. Parce que pour le coup, je trouve qu'il y a deux temps, en fait, de la question du temps. Il y a la ruine... qui à la fois, la ruine, c'est le passage du temps, mais c'est aussi qu'est-ce qui reste, parce que la ruine, c'est aussi ce qui résiste au temps, hein, c'est l'intermédiaire entre ce qui périt et ce qui reste, hein, ce qui résiste. Et puis, il y a quand même, c'est l'homme qui voit le temps passer sur les monuments, et c'est en même temps celui qui va voir des hommes détruire le monument. Donc, il y a une deuxième temporalité chez Hubert Robert, qui correspond justement à la destruction, et c'est aussi la reconstruction de Paris. Alors, d'un côté, c'est effectivement le vandalisme révolutionnaire, sur laquelle, je veux dire, quand on a été aussi proche du patrimoine, ce qu'on appelle le patrimoine, et qu'on s'est nourri de ce patrimoine, et qu'on a été près, je veux dire, du regard de la gravure des prisons de Piranèse sur l'architecture, et en même temps, alors, on parle de l'amitié avec Fragonard, d'accord, bon, oui, d'accord, on peut y penser, moi j'ai pensé beaucoup à Poussin. Beaucoup à Poussin, bon, Farouk en parle aussi, hein, de ce rapport Poussin et... Mais je dois dire que quand on est, voilà, on est dans un rapport au patrimoine et à ce regard de son temps, il y a effectivement un travail de peinture sur la ruine et il y a un deuxième temps sur la question de l'architecture qui est la destruction. Il y a deux temps. Et je dois dire qu'en fait, formellement, ça change aussi sur toute la durée de travail d'Hubert Robert, indépendamment des charges qu'il a. Il y a quelque chose qui s'opère dans le travail. Bon, j'y reviendrai, si vous voulez.
Vous y reviendrez. Ouais, on va d'abord entendre pour une première fois Jean-Max Collard sur Hubert Robert.
C'est ce que disait Diderot, d'ailleurs, dans les salons. Il disait, et Robert, il dit doucement, nous y reviendrons. Donc voilà, c'est exactement ça. Alors, moi je voulais dire, c'est un immense plaisir que d'aller voir cette exposition, parce qu'effectivement, je n'étais pas là en 1933, et ça faisait très très longtemps qu'on en avait le désir au fond. Et je pense aussi à des artistes dont je suis proche et qui ont beaucoup cité ces dernières années Hubert Robert. Je pense évidemment à Cyprien Gaillard, auquel je pense régulièrement, vous me direz. Oui. Et j'avais d'ailleurs suggéré pour la musique une musique de Coup de Lame qui a été aussi un des compagnons de
Cyprien Gaillard. Vous l'avez suggéré, mais après le début de l'émission, alors c'était un peu compliqué.
C'est ça, mais je ne savais pas qu'on pouvait envoyer des playlists. Mais maintenant,
n'hésitez
je vais me déchaîner.
N'hésitez surtout pas, Jean-Max.
Donc, il y avait une grande attente, hein, et on est assez comblé parce que quand même l'expo, faut le dire, est quand même faramineuse. Elle est quand même, c'est un marathon de Paris, et je dirais que parfois même elle est pas très très bien agencé, je pense par rapport à l'exposition du douanier Rousseau qui est remarquable en termes de qualité d'espace, etc. Elle est évidemment plus courte en nombre de tableaux. Ici, le nombre, mais en tout cas les allées, les qualités de salle, je trouve sont un peu faibles. Peut-être que voilà, ça ne restitue pas toujours justement le spectacle, le sublime, l'effroi, parce que il y a un peu de serrement dans les salles. Mais enfin, reste que quand même. C'est quand même voilà, c'est une merveille de rétrospective. Le catalogue est énorme et c'est une mine de renseignements. C'est vraiment 10 ans de travail autour de cette exposition. Et qu'est-ce qu'on y voit? Effectivement, on y voit qu'au fond, le fameux peintre d'Erwin, le Robert d'Erwin, puisque c'était son surnom, Robert d'Erwin, eh bien effectivement, comment le dire? Est-ce que c'est juste une partie de l'œuvre de Hubert Robert? Moi, je crois que c'est pas vraiment ça la question. La question, c'est qu'au fond, c'est quelqu'un qui fait d'abord le choix d'un genre. Et quand il revient de Rome, il ne passe pas par le haut, c'est-à-dire par la case peinture d'histoire, il entre par la case peinture de genre. Et son genre, c'est la peinture d'architecture. Et à l'intérieur de ce genre, il va notamment, par moment, effectivement, se spécialiser dans la peinture de ruines. Donc, sorte de sous-genre du genre, vous voyez ce que je veux dire. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps, il y a d'autres artistes qui font ce passage-là. Et Diderot, d'ailleurs, s'intéresse à ces artistes-là plutôt qu'aux grands académiciens, aux grands peintres d'histoire de son temps. Il s'intéresse justement à ceux qui font le choix des voies plus basses du genre. Vernet et la peinture marine, Chardin, évidemment, et la nature morte. Greuze et le drame familial, on va dire. Et donc, du coup, le drame naturel, drame bourgeois. Et du coup, on voit bien que là, il y a une manière quand même de... Il y a un parcours très intéressant de Hubert Robert, parce qu'au fond, par le biais de ce genre, qui est au fond le paysage, c'est un peintre de paysage, eh bien ce genre de paysage lui permet de toucher, grosso modo, à beaucoup de choses, puisque ça devient de l'architecture, parfois de l'architecture comme ça d'antiquaire, qui retrouve le goût un peu antiquaire qu'avait Mantegna, qu'avaient les fameux peintres qui allaient à Rome pour consigner les ruines de Rome, les fameux Fiamminghi à Roma, Martin van Heemskerk et tout ça, etc. C'est toute une histoire des peintres à Rome qui vont sur les sites pour relever les ruines avant même leur disparition. On voit d'ailleurs dans certaines vues sur le Colisée que les ruines sont encore enfouies, pleines de terre, parce qu'il faut savoir qu'à l'époque, l'archéologie n'avait pas... le forum romain ne ressemblait pas à ce qu'il est aujourd'hui. Il n'avait pas été complètement
mis à jour.
Mmh. Et donc, on marchait aussi sur les ruines qui étaient sous nos pieds. Et ça remonte évidemment à Montaigne, qui racontait qu'il avait l'impression de marcher sur Rome, en quelque sorte, et que Rome était sous terre. Et donc là, il y a des choses absolument passionnantes. Mais en même temps, effectivement, comme l'a dit Corinne, ce paysage se reconnecte, pardon, à la peinture d'histoire, par le biais soit de la prise de la Bastille, soit par les œuvres visionnaires. Ça rejoint aussi la question des scènes de genre, parce que parfois il y glisse des scènes avec des lingères, des lavandières, etc., etc., qui participent, je dirais, à la réflexion sur le temps. Ça, on pourrait y revenir, puisque c'est un des reproches que lui fait Diderot, tout ce côté un peu fragonard et tout ça. Mais ça rejoint aussi donc la fantaisie, l'imagination, avec les caprices, quand il mélange des monuments aussi bien de Paris que d'autres, puis ça va jusqu'au paysagisme, on va dire, c'est-à-dire jusqu'à l'art des jardins, en passant par le paysage décoratif, puisqu'il a travaillé pour beaucoup de tableaux décoratifs. Enfin bon, il y a comme ça une sorte d'extension du domaine du paysage qui fait qu'en entrant par ce genre, finalement, il couvre une gamme et une palette très forte, et ça rebrasse un peu la hiérarchie des genres picturaux de l'époque. Et ça, je trouve que c'est ça qu'on voit bien dans l'exposition, au fond. C'est peut-être cet élargissement du paysage, plus qu'une variété des sujets. Je crois que il tient en quelque sorte son genre, mais il l'étend et il touche jusqu'à des genres auxquels normalement il n'aurait pas dû avoir accès.
Corinne Rondeau ?
Oui, genre sous genre. Alors moi j'étais... Non mais indépendamment de faire de l'histoire, moi évidemment j'entends parfaitement. Moi ce qui m'a marqué dans cette exposition, et justement dans le parcours qui est fait des tableaux, et la manière dont la chronologie s'impose, malgré certains moments où on nous dit voilà grand projet pour les parcs de Méréville par exemple, etc. Bon, il y a quelque chose de très étonnant parce que c'est récurrent chez Hubert Robert. Et quand on est un architecte et qu'on arrive à Rome et qu'on regarde les gravures de Piranèse et qu'on a un peu l'habitude d'avoir vu, enfin, ce qui marque, évidemment, c'est l'idée de l'escalier. Chez Piranèse, vous les avez dans les prisons, Hubert Robert les voit, et l'idée de la spirale chez Hubert Robert, c'est même un graffiti qu'il a fait au Palazzo, oui, au Palais Farnèse, de Caprarola. Et il en fait aussi un tableau. Et vous avez un escalier qui n'arrête pas et qui descend. Évidemment, vous avez une peinture qui est faite tout le temps de cavités. Il y a un dessus, un dessous. Mais en fait, une spirale, c'est quoi? Ça fonctionne par des périphéries. Voilà, ça crée du mouvement dynamique par des périphéries. Toute une partie des ruines, première période pour moi, à quoi ça correspondrait, c'est effectivement regarder ce qui reste de l'antique, mais de l'autre temps. Et quand vous mettez un pasteur avec des moutons dans une ruine d'église, c'est deux temps qui se rencontrent. Et c'est ça le gigantisme et, je dirais, le rapport au présent d'Hubert Robert. Et c'est là que je le trouve absolument merveilleux dans cette partie du peintre des ruines. Mais effectivement, lorsque cette spirale, parce que c'est un architecte, il a cette manière de venir... Quand, par exemple, il fait une vue de Nîmes, il vous fout la maison carrée, les arènes, et la Tourmagne, bon, évidemment,
dans le même plan.
Dans le même plan. Mais il fait ça aussi pour l'Égypte, les pyramides, le sphinx, et je ne sais plus trop quoi. Donc la pyramide, c'est, si vous voulez, c'est la forme circulaire qui vient embrasser tout. Et il arrive à cadrer, il a vraiment une vision de l'espace qui vient cadrer dans cette caractéristique. Alors, l'exposition, c'est le peintre visionnaire, mais c'est ça, c'est créer une vision dans laquelle je peux parler à la fois du temps et de l'organisation spatiale dans ce temps-là. Et là, il nous raconte effectivement ce que c'est qu'une lavandière ou voilà le rapport. On va tendre des draps d'une statue équestre antique. Donc c'est pas de l'anecdote. C'est un rapport vraiment au temps. Et alors, dans le deuxième temps, où il y a la Révolution, où il voit cette... Vous voyez que...
C'est vrai que le tableau de la démolition de la Bastille est quand même extrêmement impressionnant.
Et pas que ça, je veux dire, même la reconstruction de l'opéra, etc. Le feu, par exemple, quand on...
Bon, la destruction de l'opéra.
La destruction de l'opéra, l'incendie de l'opéra.
Il lui a été reproché comme un tableau d'actualité.
Oui.
Parce que c'était vraiment...
Mais c'est vrai, en plus, voilà, ça fait tableau d'actualité. Il est un vrai peintre du printemps.
Du printemps présent.
Bientôt. Et en fait, vous avez, dans la première partie, vous avez des cascades. Le tableau vient à vous. Et d'ailleurs, il a une précision comme des arrière-plans aussi, même si ça vient devant vous. Comme d'ailleurs Poussin. Et son tableau, d'ailleurs, des bergers en Arcadie, est absolument remarquable. Puisqu'en fait, sans doute, il a vu le... Mais vous savez que dans le Poussin, il y a marqué « Et in Arcadia ego », s'il y a une ellipse, hein, la mort même existe en Arcadie. C'est ça, enfin, j'ai mis la mort qui n'est pas dans l'expression gravée de chez Poussin. Et lui dit « Et ego pastor in Arcadia ». Je suis un berger en Arcadie.
C'est une phrase... La signature de Robert est sur la tombe.
Ouais. Et en fait, c'est aussi une manière de dire « Je suis au présent ». D'ailleurs, le nombre de personnages qui ont les bras ouverts face à des monuments qui sont comme regarde, découvre, et c'est une manière de dire regarde ton temps. Et quand il y a une destruction, je pense qu'il y a une vrille, il y a une torsion qui s'opère de cette spirale, et vous constaterez qu'à la fois il y a quelque chose qui vient à vous dans un premier temps, et quand on est à la destruction du temps humain, hein, il y a le temps humain qui vient détruire de l'architecture, vous allez avoir des perspectives. Il va créer des perspectives qui n'existent pas dans son tableau. Il y a de la cavité, il y a une recherche archéologique, il y a un rapport au présent.
Des cavités, il y en a beaucoup.
Et dans le deuxième temps, il y a vraiment ce rapport à la perspective, chercher un horizon quand il n'y en a plus. Et soit vous avez la grande galerie qui est... Alors là, pour le coup, c'est l'infini. Hein, le point du divin est au fond de la galerie, ça ne s'arrête pas. Mmh. Cette grande galerie n'a pas de fin. Et par ailleurs, vous avez des monuments qui sont bouchés. La reconstruction de Paris, c'est toujours des plans rebouchés. Qui sont bouchés. Là, ça vous bouche la vue. Et donc, je trouve que dans le rapport du temps, des deux temporalités, des ruines d'un côté, la destruction de l'autre, il y a une torsion de cette spirale. Et comme je pense qu'il a pensé en termes d'architecture, voire d'aménagement de l'espace, eh bien, cette temporalité, elle s'exprime dans une forme simple, qui est ce graffiti qu'il a fait en 1754 à Rome, sur ce palais Farnèse. Capra. Je ne le dirai pas.
Bon, je ne le dirai pas. Voilà. Il l'a fait. Jean-Max Collard, encore quelques
mots
sur
Robert
Robert. Oui, on peut
ajouter aussi sur la question de ces temporalités. C'est que, finalement, par moment seulement, Hubert Robert atteint en quelque sorte cette dimension, une sorte de peintre des Lumières, de quelqu'un qui serait un peintre qui vraiment est dans une sorte de réflexion philosophique sur le temps et qui est ce peintre que désirait au fond Diderot, puisque Diderot lui disait de d'enlever un peu les figures de l'avant-hier et lui dit même sachez, puisque vous êtes voué à la peinture des ruines, sachez que ce genre a sa poétique, vous l'ignorez absolument. Donc et par moment, est-ce que Diderot n'entend pas, c'est que évidemment les Lavandières, elles participent, comme l'a dit Corinne, de cette réflexion sur le temps. Vous avez aussi parfois et très tôt des citoyens antiques qui sont là. Vous avez le dessinateur qui fait le relevé des ruines et qui a aussi une figure en abîme et qui a aussi une figure au présent de celui qui prend la distance avec le temps. Et puis vous avez la nature, parce que il y a de l'eau, il y a du ciel, et ça c'est évidemment une nature, je dirais, voilà, impassible au temps humain. Et les toiles verticales sont formidables, et elles sont formidables dans leur verticalité parce que elles rajoutent une autre temporalité qui est la temporalité longue de la nature, du ciel, d'une temporalité impassible aux affaires des hommes. Et c'est là qu'on touche à une peinture vraiment philosophique. Et ça, je trouve ça assez formidable. Dans ces chefs-d'œuvre qu'on trouve dans l'exposition, moi, je trouve que les endroits les plus graves, en quelque sorte, de Robert, des ruines, ce sont les quelques dessins à plume et encre grise qui sont presque au bord du tableau, qui sont des merveilles absolues et où là on sent une gravité qui n'y a pas toujours ailleurs et c'est des moments vraiment très très forts.
Dernier mot, Corinne Rondeau, sur Hubert Robert au Louvre.
Oui, parce que Jean-Max évoque le mot, philosophe. Moi j'ai l'impression que Hubert Robert c'est un poussin profane. Et d'ailleurs, je crois qu'il a regardé absolument l'étagement des plans, les arrière-plans de Poussin, sauf qu'il en a fait du gigantisme. Et il y a un rapport vraiment. Je regardais la roche telle que celle qui est dans le paysage à cascade inspiré du Tivoli, qui est un tableau de 248 cm sur 378. Donc c'est colossal pour l'époque, je trouve, même si ça rappelle un certain nombre de types de paysages allemands. On a l'impression qu'il a regardé la roche de la Manne en arrière-plan de Poussin. Et la manière dont il travaille les arrière-plans, c'est du Poussin. Et là, je me dis, il faudrait faire une expo Poussin.
Et il se souvient aussi du Lorrain. Il se souvient aussi du Lorrain. C'est aussi
oui,
très présent.
Bon, ça, c'est
toute cette
début,
peinture française est quand même très présente.
C'est très clair. Enfin, façon, c'est marqué avec le tableau du Lorrain au début de l'expo.
C'est très beau.
C'est magnifique.
Bon, vous avez fini en duo. C'était très, très, très beau aussi. Hubert Robert, peintre visionnaire au Musée du Louvre. Jusqu'au 30 mai, très gros et beau catalogue qui accompagne l'exposition, édité par le Musée du Louvre et les éditions Somogy, ainsi que de conférences qui accompagnent cette exposition. La prochaine aura lieu demain, 24 mars à 18h30, sera consacrée à la pièce de Joël Pommerat, Ça ira, un fin de Louis. Et puis toujours dans l'actualité, poursuite du cycle de spectacles vivants et littérature, c'est un feuilleton théâtral et épistolaire à travers le 18e siècle, dont la direction artistique est assurée par l'invité de la dispute toute cette semaine, c'est Clément Hervieux-Léger.
France Culture,
La dispute,
Arnaud Laporte.
Et avant de parler du douanier Rousseau, nous retrouverons l'invité de la dispute, donc le comédien et metteur en scène Clément Hervieux-Léger. Nous évoquerons aussi Shelters de Oscar Toisson à la galerie Chantal Crouzel et Le magicien d'Os, sculpture de Quentin Garel au Muséum national d'histoire naturelle. Pour l'heure, Le magicien, les journaux, Antoine Guillot, pour la revue de presse culturelle quotidienne de la dispute. Bonsoir, cher Antoine.
Bonsoir, Arnaud Laporte. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un garçon accroupi, prostré contre un mur, les yeux grands ouverts et l'air apeuré, peint sur une armoire électrique. Cette œuvre de l'artiste C215 raconte une brève de libération, faisait partie d'une commande de la mairie de Reims en vue d'une rétrospective sur près de 600 mètres carrés au printemps. Seulement, il y a eu un petit couac, a indiqué la mairie à l'AFP. Les services qui ont dealé avec l'as du pochoir ont oublié de prévenir le service propreté qui a effacé l'œuvre fin février. Interrogé par l'AFP, Christian Guémy, alias C215, a réagi en expliquant que la détérioration était un risque inhérent à ce type d'art. Là où j'ai été surpris, c'est qu'elle a été nettoyée par la ville alors qu'elle me l'a commandée, a ironisé C215, qui a proposé d'en refaire une nouvelle. Les services de la mairie se sont excusés platement. Ce sont eux les premiers emmerdés. Il y a eu une confusion entre les services, a-t-il ajouté, soulignant l'intérêt de la ville de Reims pour cet art de rue. Quel intérêt de la ville de Narbonne pour l'art en général? Initialement programmée jusqu'au 30 avril, l'exposition Louis Jam, rétrospective 1983-2015, Lucie, cette obscure clarté qui tombe des étoiles, c'est le titre de l'exposition, n'aura duré que 10 jours, nous apprend Nathalie Eggs dans le Journal des Arts. L'aspirateur, lieu d'exposition et de création, est fermé depuis le dimanche 13 mars au soir, en raison de désaccords entre le photographe et les organisateurs de l'exposition. Dans un communiqué, la ville de Narbonne, propriétaire de l'aspirateur, a déclaré avoir dû se résoudre à mettre fin prématurément à l'exposition du photographe Louis Jam. Cette issue est le résultat d'une succession de malentendus et de désaccords entre les parties. Le malaise a débuté lorsque, mécontent de la réception tardive d'une partie de ses œuvres par la mairie le jour du vernissage, c'était le 4 mars, Louis Jam a peint en rouge la phrase suivante sur l'édifice de l'aspirateur: Narbonne City Hall forgot to receive 25 pieces, lol. La mairie de Narbonne a oublié de recevoir 25 œuvres, lol. L'artiste s'est par la suite vu refuser par la ville l'accrochage sur des panneaux dans la ville consacrés à la promotion de l'événement de 4 photographies de migrants syriens photographiés en octobre 2015 à la frontière serbo-croate. Cette possibilité d'affichage urbain était pourtant prévue initialement et c'est même ce qui m'avait séduit dans ce projet, a confié l'artiste au journal L'Indépendant. Face à ce refus, il a décidé de les afficher sur les murs extérieurs de l'aspirateur, une initiative très mal reçue par la mairie qu'il a immédiatement censurée. Le 10 mars, lors de la réception des œuvres manquantes, Louis Jam a décidé de les exposer en les recouvrant en partie de couvertures de survie. Dans son communiqué, la mairie a simplement expliqué que la ville et le parc naturel régional de la Narbonnaise en Méditerranée, co-organisateur de cette exposition, n'entendent pas entrer dans la polémique provoquée par l'artiste du fait de ses déclarations publiques ou de son comportement à l'intérieur et aux abords de l'aspirateur. Après la censure, Louis Jam s'est rendu à Narbonne pour constater la fermeture du lieu. L'exposition a été très compliquée à monter car je ne sentais aucun désir, aucune envie du côté de la municipalité, juste du vide, a-t-il confié à l'Indépendant. Didier Mouly, le maire d'Hiver Droite, n'aime pas l'art contemporain, a-t-il ajouté. La municipalité de Narbonne a raison sur tout et tort sur l'essentiel, commente Michel Guérin dans sa chronique Culture du Monde. Les migrants, c'est une question centrale qui va se poser à l'Europe dans les années qui viennent et ce n'est pas un hasard si nombre d'artistes, metteurs en scène de théâtre, on en a parlé ici lundi soir, cinéastes, écrivains s'en emparent. Narbonne aurait dû s'enthousiasmer pour une idée qui, si elle n'avait pas marché, n'aurait pas fait de mal. Les fameuses 4 images sont plutôt vibrantes, pas heurtantes. Et puis, déplacer l'art du musée à la rue n'est pas idiot à une époque de repli sur soi. Louis Jam est persuadé que ce refus est lié au sujet des images et le dit à sa façon. Les Arabes, la ville ne veut les voir ni en vrai, ni en photo, ni en peinture. Du reste, la municipalité a aussi demandé à l'artiste de retirer de l'exposition son portrait du peintre Jean-Michel Basquiat nu, au motif que les enfants seraient perturbés. Incorrigibles élus qui ne font pas confiance à l'art, aux artistes et au public, qui veulent que chacun soit sage, qui n'ont pas compris qu'un créateur n'est pas là pour décorer, mais pour bousculer. Il existe un festival à Vevey, en Suisse, qui n'est pas vraiment une ville de gauchistes, dont le concept est d'afficher des photos dans la rue, souvent géantes, parfois dérangeantes. Il existe à Perpignan, à 65 km de Narbonne, le festival Visa pour l'image, dévolu au photojournalisme, où les habitants découvrent dans des expositions et des projections sur grand écran des milliers d'images, souvent dominées par la douleur et la mort. Alors que Narbonne mettait une exposition sous clé, la ministre de la Culture, Audrey Azoulay, déclarait le 16 mars aux Parisiens « La société se radicalise. Je veux que la création et les artistes soient plus proches de nous, dans nos campagnes, nos banlieues, que les musées sortent de leurs murs. Il faut retrouver une émotion commune, un lien collectif autour de propositions d'artistes. » C'est quoi un lien collectif autour de l'art? Par exemple, ce qui s'est passé à Sarajevo entre 1992 et 1996, quand les 350 000 habitants de la capitale bosniaque ont été pilonnés par des milices serbes postées sur les collines autour et pris pour cible par des snipers. Dans Sarajevo assiégé, comme l'a montré un documentaire diffusé hier soir sur Arte, la culture aidait chacun à ne pas devenir un monstre, à écouter l'autre, monter avec les moyens du bord une pièce de théâtre, une exposition, un concert rock, un spectacle de danse. Tout cela aidait à vivre ensemble, quelle que soit son ethnie ou sa religion. Et si la ville se battait, c'était pour sauver sa culture et préserver son identité. En 1993, un artiste français était parmi les Sarajeviens. Il a pris les habitants en photo, les a transformés en anges en leur ajoutant des ailes au pinceau sur le tirage, puis a collé les images agrandies sur les façades meurtries. C'était Louis Jam. En juin, il exposera à Sarajevo, une ville au climat manifestement beaucoup plus doux que Narbonne.
Semaine après semaine, le même type de faits hein, reviennent dans l'actualité, Jean-Max Collard.
Oui, oui, c'est un feuilleton auquel on est malheureusement assez habitué. Après, il y a toujours en discussion une loi sur la création qui devait essayer de protéger les programmateurs et les artistes de ces incursions. Un peu sauvage de ces sauvageons politiques, et donc on attend que la loi sur la création avance.
Corinne Rondeau.
Oui, on attend ça avec beaucoup d'impatience parce que on mélange beaucoup trop les choses. Voilà, puis on peut pas attendre quand même de la municipalité de Narbonne qu'elle s'intéresse à ce qui se fait aujourd'hui quand même, franchement.
Écoutez, ça pourrait changer hein. Écoutez, on peut toujours espérer que les choses s'améliore.
Ouais. Ça, oui.
Narbonne est quand même dans une région effectivement compliquée, on va dire cela comme ça, eu égard à l'art contemporain et à beaucoup de choses du contemporain en tout cas. Il y aura peut-être des mails indignés de Narbonnaises et Narbonnais,
on n'englobe pas. Non, mais il y a des gens qui font des choses en art contemporain et
partout.
Qui bossent, quoi.
Ah oui. Dire, c'est, il y en a partout.
C'est dommage d'avoir ce phare sur une question de politique, de censure permanente dans laquelle on est aujourd'hui, quoi.
Alors qu'il y a des gens partout qui font des choses, bien sûr.
C'est pas que Narbonne d'ailleurs. On avait parlé de la Seyne-sur-Mer, je crois, il n'y a pas très longtemps. Enfin, la question de la censure, l'autocensure, et justement, comment on peut laisser la création être ce qu'elle est, tout en n'étant pas non plus n'importe quoi, parce qu'on n'est pas non plus là pour défendre n'importe quoi.
Bien sûr.
Ça, c'est aussi une partie de notre job, je dirais. Et en même temps, les politiques ne sont pas tout puissants pour décider ce qu'est la création ou pas la création. S'ils veulent pas s'entourer de gens qui peuvent les conseiller avec, je dirais, un panorama, mais aussi une éthique et un pouvoir esthétique aussi dans leur poche, je dirais que, voilà, c'est laisser aux politiques prendre le soin de faire n'importe quoi, c'est-à-dire de ne pas prendre soin de leurs habitants, le désir de chacun, voire ça peut contrarier certaines personnes et pas d'autres, chacun son tour, on va dire. Il y a des choses, effectivement, dans la vie, on n'a pas envie de les voir, et puis la création, c'est aussi... Voilà, c'est un lieu commun. Finalement, il faut s'arrêter dessus. À quel moment je peux être déplacée et pas forcément qu'on me tape sur la tête, quoi. Parce que si aujourd'hui on ne pense qu'en termes d'opposition et de conflit, on s'en sort pas. Par contre, l'idée du déplacement, de se désaxer, de modifier les destinations. Et pas de se ranger à des mots d'ordre ou à des positions idéologiques. Écoutez, ça nous fera le plus grand bien. Donc on attend vraiment que la ministre de la Culture... le quinquennat n'est pas très long. Elle arrive tardivement, mais on espère qu'il y ait une espèce de vent de dynamique là qui s'opère. Les acteurs, plein d'énergie, de volonté, de vie, quoi, surtout, parce que c'est mortifère.
Jean-Max, voilà.
Je pense à autre chose, je pense à Bruxelles.
Ouais.
Parce que, évidemment, avec ce qui se passe là, et je pense à Bruxelles qui était cette ville en plein renouveau culturel, dont beaucoup disaient comme ça que c'était en train de devenir le nouveau Berlin, et qui attirait comme ça beaucoup d'artistes, etc., et qui est aujourd'hui là frappé par des attentats, une autre manière, évidemment, très, très, très mortifère, cette fois très directement, et d'intervenir, et voilà, j'ai une pensée pour Bruxelles.
Pensons maintenant à des choses qu'on voit et qu'on peut voir et que vous nous recommandez. Corinne Rondeau, un lieu que vous affectionnez, mais où vous n'étiez pas allé depuis longtemps, le Muséum National d'Histoire Naturelle.
Oui, c'est un lieu, enfin, ce sont des lieux que je fréquente souvent et que j'aime beaucoup depuis très, très, très petit. Tout enfant. Alors évidemment, quand j'ai vu Le Magicien d'Oz, je me suis dit, je ne suis pas sûre que ce soit une exposition pour toi. Et finalement, la destination, c'est-à-dire les galeries d'anatomie comparée et de paléontologie, finalement, ont décidé un petit peu de cette histoire de désir avec les os, on va dire. Et donc, j'y suis arrivée, et comme j'y suis arrivée tôt, j'avais complètement oublié qu'il y avait déjà une statue, une sculpture dans l'entrée. Des galeries d'anatomie comparées, et ce sont ce sont des sculptures d'Emmanuel Frémier. Vous avez un orang-outan, parce qu'il a beaucoup étudié notamment l'orang-outan du jardin des plantes, enfin du jardin d'acclimatation qui s'appelait Maurice à la fin du 19e siècle, et il a beaucoup sculpté des orang-outans en train d'enlever des femmes ou d'étrangler des sauvages de Bornéo, et vous avez ça dans l'entrée. Et cette sculpture est scandaleuse, elle est d'une violence folle, et heureusement que les gens ne viennent pas, ceux qui sont encartés, je dirais, viennent pas voir les titres, parce que peut-être ils demanderaient une révision des titres. Et donc, en fait, il y a une statue de gorille enlevant une femme qui n'a jamais été prise par le muséum et qui, dont les copies sont parties aux États-Unis. Ça a donné King Kong en 1933. Donc ce lieu est plein d'histoires. Et lorsqu'en fait j'ai vu Bruno David, qui est le président du muséum, c'est aussi un scientifique, qui a parlé du travail de ce jeune artiste Quentin Garrel, qui a, avec des yeux qui pétillaient, qui était une manière de décloisonner sa science pour penser à travers une sculpture. Je me suis dit, mais voilà, le monde est peut-être aussi au muséum, l'art a peut-être sa place aussi, parce que c'est une manière de rencontrer d'autres champs. Et cet espace du muséum, c'était quand même la rencontre avec Flaubert, avec l'anatomiste Georges Pouchet, dont Maupassant lui a dédié La mer sauvage, par exemple. C'est-à-dire, d'un coup, il y avait ça. Et quand vous rentrez et que vous avez une grande flèche comme ça, qui est comme un os, qui est très élevé, qui en fait n'est pas un os, parce que c'est une sculpture qui semble être du bois, mais qui en fait n'est pas du bois, parce que c'est une autre matière, parce qu'il travaille sur du bronze, il travaille sur ce Quentin Garrel. D'un coup, il y a quelque chose qui est de l'ordre de la ressemblance, de l'analogie, bien sûr, mais c'est aussi, tout a été le circuit de trouver... le crâne ou la bête qui ne fait pas partie des galeries d'anatomie comparée. Et alors, ce qui est intéressant, c'est que, bon, je dois dire que le travail m'a pas passionné en termes de sculpture, même si c'est bien fait, s'il y a une très belle qualité de travail. Mais ce qui m'a intéressé, qui rejoint finalement l'intérêt pour les conservateurs, les responsables des galeries, les anatomistes et le président du muséum, c'est en quoi, effectivement, ces sculptures, qui sont comme un chemin de... Enfin, une chasse, un jeu de piste, sont là, en fait, pour vous faire regarder tout ce qu'il y a autour. Et en fait, ces sculptures étaient comme des ready-made. C'est-à-dire, vous savez, le ready-made n'est pas fait pour être regardé, mais il est aussi pour vous faire voir tout ce qu'il y a autour. Et là, d'un coup, vous voyez, effectivement, que la nature est d'une créativité. Et ça m'a fait beaucoup de bien de retrouver la galerie d'anatomie comparée. Et donc, j'ai pris un plaisir inouï à retrouver... des sculptures, des plâtres d'intestin de girafe, par exemple, ou d'autres choses, des squelettes de serpents qui sont sur des longueurs infinies. Donc c'était le plaisir de retrouver ça et de voir effectivement tout un travail qu'il a fait entre les analogies, alors les analogies formelles qui sont aussi une manière de déplacer la destination anatomique. Donc l'art, c'est pas la même destination et c'est pas mal, voilà.
Le magicien d'os, sculpture de Quentin Garrel, c'est au Muséum national d'histoire naturelle et dans le jardin aussi. C'est jusqu'au 12 septembre. Galerie Chantal Crozel à présent pour aller voir Oscar Toisson.
Alors c'est quelque chose de très différent. Oscar Toisson est un artiste américain qui est né à Seattle et qui a longtemps vécu à Paris. Il fait partie quelque part de la scène française. Il avait été actif dans le collectif de Castillo Corrales, par exemple, qui est cette librairie qui depuis a fermé ses portes. Et il est retourné aujourd'hui vivre et travailler aux États-Unis. Donc il nous revient là avec une exposition à Paris dans la galerie Chantal Crozel. Moi, c'est un artiste que je trouve vraiment absolument formidable et passionnant. Et qu'est-ce qu'il fait là? C'est toujours quelqu'un qui travaille aux frontières de l'architecture. Et là, il construit trois abris. Voilà, shelter, c'est des abris un peu temporaires, des abris dont certains sont un peu désossés. Il y a une grande pièce centrale dans laquelle on peut rentrer, on peut pénétrer, on peut pousser la porte, on peut s'abriter dans l'abri, se loger. Il y a des tout petits abris en recoin dans lesquels, comme ça, on peut se glisser. Et puis, sur les côtés, vous avez des photos de gens dans les bois, etc. Et puis, autour de ces abris, qui évoquent à la fois qui évoque un peu les pavillons pièges de Dan Graham, mais et autour vous avez des bancs, voilà, comme un espace public au fond, et ces bancs, la matière de ces bancs, enfin ce qu'on peut, c'est des bancs sur lesquels on peut s'asseoir, mais aussi on peut lire, parce que sur la base et sur le dossier, vous avez tous les numéros d'un magazine qui s'appelle Vonu Life. Et qui est un magazine que Oscar Toisson a retrouvé, qu'il a lui-même d'ailleurs republié en épisode, qui était un magazine fait par un collectif de gens très radicaux et qui prônait en quelque sorte la disparition radicale. Et d'ailleurs, on appelle ça les Vonu, la Vonu Life, hein, les Vonuins, par exemple, les Vonuins comptaient par exemple un certain Rayo qui a disparu dans les bois depuis 1972. Donc, ces abris, au fond, c'est un peu la dernière station aussi avant la disparition radicale. Et là, je dirais qu'il y a quelque chose d'assez intéressant. Si je disais que c'était aussi un artiste artiste qui connaît bien la France, ça, c'est parce que je trouve que tout en étant comme ça dans une histoire peut-être américaine, une histoire de forêt, des choses comme ça, c'est aussi une ambiance un peu de zadiste. Hein. C'est un peu Notre-Dame-des-Landes. Enfin, il y a une ambiance un peu particulière. Moi, j'ai trouvé ça très beau, très fort et justement radical. Bon, avant de disparaître ici.
Shelters de Oscar Thoisson à la galerie Chantal Crouzel jusqu'au 16 avril. Dans quelques minutes, nous parlerons de l'exposition consacrée au douanier Rousseau au musée d'Orsay. Avant cela, on retrouve l'invité de la dispute, Clément Hervieux-Léger, dont on peut retrouver l'actualité sur le site franceculture.fr à la page de l'invité de la dispute.
Enchanteur, comment allez-vous? Très bien, merci.
Clément Hervieux-Léger, on parle d'art plastique ce soir, ce qui nous donne l'occasion aussi d'évoquer, vous avez de nombreuses activités, tout un cycle à l'auditorium du Louvre, cette belle maison qu'est le musée du Louvre et son auditorium qui continue à vivre. Grand cycle, vous évoquiez Marina Hans dans l'émission hier pour parler de cinéma, mais elle fait partie des comédiennes et comédiens que vous avez convoqués pour donner à entendre des textes.
Oui, c'est un cycle en fait qu'on a un peu imaginé comme un feuilleton de comédiens qu'on retrouverait une fois par mois pour lire des textes d'auteurs extrêmement connus, Crébillon qui est peut-être le moins connu, mais sinon Marivaux, Diderot, Voltaire et Laclos, mais dans des œuvres qui le sont moins, Le Petit Maître corrigé de Marivaux, Sémiramis de Voltaire, et puis le dialogue entre le philosophe et la maréchale de Diderot. C'était l'idée, avec Stéphane Malfette, le directeur de l'auditorium, c'était d'organiser une série de lectures en regard, en fait, avec cette saison consacrée au 18e au Louvre. Moi, j'ai une grande fréquentation des musées, le Louvre notamment, et puis depuis plusieurs années, puisqu'il y a eu cet événement au moment de la création de Rêve d'automne, mis en scène par Patrice Chéreau dans les salles du Louvre, où c'était quand même un moment incroyable. Enfin, moi, j'attendais mon entrée, puisque je jouais le fils mort, tout seul face à la Joconde. Enfin, c'était improbable. C'est des moments quand même fous de répétition dans ce musée, enfin, qui est en lui-même mythique, mythologique presque. Et d'être là face à ce tableau, en attendant mon entrée pour retrouver Valéria ou Pascal Grégory sur le plateau. Enfin, voilà. Donc ça crée une sorte d'intimité avec le musée. Et puis, à partir de là, j'ai eu des rendez-vous réguliers au musée du Louvre. Et là, par exemple, en ce moment, il y a l'exposition Hubert Robert qui vient de commencer. Et je trouve ça sublime, en fait. C'est pas forcément le peintre qu'on connaît le plus. Et je trouve que c'est une très, très belle exposition. Moi, je crois que je suis plus sensible, d'ailleurs, à ces sanguines qu'à ces grands tableaux. Mais toutes les années italiennes et la manière dont en fait, c'est toujours des leçons de mise en scène extraordinaires, quoi. C'est-à-dire que la capacité à organiser l'espace, ça c'est quand même très fascinant et moi c'est toujours une leçon de regarder tout ça parce que il y a évidemment un grand classicisme, quelque chose de très formel mais qui est extrêmement émouvant et je trouve ça toujours rassurant face à un tableau, notamment dans la période classique, de se dire que la forme peut être aussi une source d'émotion.
Et puis chez Hubert Robert, il se passe souvent des choses saugrenu ou pas, dans différents endroits improbables du tableau, mais il y a tout d'un coup beaucoup de vie avec des toutes petites figures.
Exactement. Ce qui est beau, c'est ces mini-scènes de genre, alors qu'en plus on le connaît davantage, puis lui-même se fait connaître comme peintre d'architecture, et quand même il y a la vie partout. Et parfois, la vie, elle naît simplement de la position des corps, de la manière dont une personne regarde l'autre, d'un épaulement, et ça me bouleverse.
Et l'art contemporain, alors c'est très large, hein, mais est-ce que vous fréquentez aussi le Palais de Tokyo? Est-ce que vous fréquentez les galeries?
Un peu, parce que c'est quand même très important d'être aussi ouvert à la création contemporaine. Je trouve que c'est parfois aussi plus difficile de s'y retrouver, en tout cas pour moi. Peut-être parce que je connais davantage le répertoire classique et que de ce fait, mon goût aussi m'entraîne davantage vers les salles du musée du Louvre ou d'Orsay. Mais non, ça évidemment, j'ai de l'intérêt pour ça. Plus d'ailleurs dans les galeries que, par exemple, au Palais de Tokyo, mais plus dans les galeries. Il y a quand même un très grand nombre de galeries à Paris et avec des expositions toujours passionnantes. Je suis assez sensible à la photographie. Je dois dire que là aussi, c'est des sources d'inspiration permanentes. Et je trouve qu'il y a des galeries de photos magnifiques à Paris, notamment dans le Marais, autour du Carreau du Temple, tout ça, dans tout ce quartier qui s'est complètement recréé. Mmh. Et je trouve qu'il y a vraiment des choses très belles. Ouais.
Nous poursuivons cette dispute consacrée le mercredi soir aux arts plastiques en nous rendant au musée d'Orsay pour y découvrir l'exposition intitulée « Le douanier Rousseau, l'innocence archaïque ». Nouvelle grande exposition d'Orsay dont le commissariat est assuré par Béatrice Avanzi et Claire Bernardi, conservateur au musée d'Orsay. Une exposition qui entend replacer Rousseau dans le contexte de l'art de son temps en confrontant ses œuvres, notamment à celles de Seurat, Delaunay, Kandinsky ou Picasso.
Inviter, laissez tout tomber, on va embarquer pour un pays qui va vous enchanter, vous embéguiner, laissez-vous tenter. C'est une île perdue au milieu de l'océan, un jardin merveilleux, un spectacle permanent, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des perroquets bleus qui boivent du lait de coco, comme dans les tableaux du douanier Rousseau. Il y a des poissons tropicaux plein de piquant sur le dos. Oh 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 oh. La nuit tombée, si vous le voulez, on ira canoter sous les palais tuviers. Aucun danger, on peut se baigner. Là-bas, les crocodiles sont bien intentionnés. Au clair de la lune, dans la forêt endormie, des ombres félines se dessinent par magie. Comme dans les tableaux du douanier Rousseau.
Bon, allez, on aime beaucoup écouter Philippe Catherine, mais il reste 10 minutes pour parler du douanier Rousseau à Orsay, donc on va les
c'est
utiliser
une
à plein.
Chronique d'exposition, je trouve.
Ça, on vous laisse tout le morceau, vous préférez?
Oui,
vous avez des choses à dire?
Non, bien sûr.
Bon, allez, Jean-Max, allez-y.
Alors, contrairement à Hubert Robert, c'était une exposition que personnellement, moi, je n'attendais pas du tout. Vous voyez, je n'avais pas le même désir du douanier Rousseau que le désir d'Hubert Robert. Mais je dois dire que, d'abord, il y a une grande qualité, moi, je trouve, de l'exposition. Elle est limpide, elle est très claire, elle est très bien organisée. Je la trouve quand même très belle. Et puis, je trouve une grande qualité. C'est qu'au fond, à mettre justement en balance certaines œuvres qui ont précédé, en quelque sorte, et puis même des références à ce qui sont des références actives pour le douanier Rousseau, c'est-à-dire des tableaux, des primitifs de la Renaissance, etc. Et puis, de l'autre côté, une modernité, y compris postérieure, c'est-à-dire Picasso, qui était à la fois un ami et un quelqu'un qui possédait plusieurs tableaux de douanier Rousseau, qui en a acheté un à 5 francs.
Mmh. Chez
un brocanteur. Oui. Bon. Et puis évidemment, ensuite, on a Max Ernst, on a d'autres. On est pris comme ça entre passé et modernité. Et au fond, moi, ce que je trouve très beau, c'est que l'exposition laisse intacte quand même l'énigme qu'est cette peinture. Et d'ailleurs, très souvent, quand on discute avec la commissaire, elle dit voilà, c'est étrange, c'est énigmatique, ça n'est pas résolu. Et moi, je trouve que c'est une vraie qualité en quelque sorte, parce que ça éclaire, tout ça éclaire évidemment cette œuvre-là, mais je veux dire, l'énigme reste totale sur ce peintre autodidacte et donc passé hors des académies, sur ce peintre dont d'abord les gens rient parce que on pense que c'est une peinture maladroite, parce qu'il n'y a pas de perspective, parce que les personnages sont complètement disproportionnés, parce que quand il fait un enfant, bon, les enfants sont assez monstrueux chez douanier Rousseau et ils ont des poupées qui sont presque aussi grosses que les enfants, donc il y a une vision. C'est au fond le père de ce qu'on appellera plus tard un art naïf, mais lui, on pourrait dire, n'en est pas forcément un. D'ailleurs, la catégorie n'existait pas. Et donc, on a longtemps ri du pauvre douanier, c'est ce que dit un des spécialistes du douanier Rousseau de l'époque, hein, du début du siècle. On a longtemps ri du pauvre douanier, et aujourd'hui on n'en rit plus parce qu'on sait, voilà, on se rend compte que ça a été très regardé, notamment par la modernité, et puis de son temps même, il a quand même un peu étonné un peu tout le monde, parce qu'on a vu que cette maladresse, en fin de compte, eh bien, on pouvait y apprendre beaucoup de choses. Donc, c'est excessivement bizarre, c'est excessivement énigmatique, et notamment, ce qui est énigmatique, au fond, enfin, ce qui est assez marquant, c'est quand même la touche picturale, on peut dire, du douanier Rousseau, parce qu'au début, il y a quelques touches impressionnistes, puis après, tout ça devient quand même extrêmement lisse. Et ce qui fait un peu ce côté naïf, c'est finalement la disproportion des figures, l'absence de perspective, et puis le lisse, quoi. Le lisse, ce qui donne, au fond, contrairement à d'autres modernes où on voit qu'il y a une matérialité de la peinture, ce qui donne une limpidité à ses visions intérieures et oniriques, ses rêves, ses jungles, etc. Une sorte presque d'exactitude d'une vision onirique. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait saisissant et dont se souviendront aussi des gens comme Max Ernst, entre autres.
Corinne Rondeau sur Douanier Rousseau.
Oui, on peut être un petit peu désarçonné par rapport aux autres expositions d'Orsay, où il y a effectivement une dimension scientifique, mais dès le début du catalogue, on vous dit, Cocheval et la commissaire Gabriella Belli vous disent tout de suite les catégories, comme le disait Lionello Venturi, les catégories pour les primitifs ne sont pas applicables. Et c'est tout à fait juste. Les catégories historiques ou les critères historiques ne sont pas valides. Donc effectivement, l'exposition commence par une galerie de portraits dans laquelle évidemment, il y a le douanier Rousseau et sa femme, deux portraits qu'aura effectivement acquis Picasso, qu'on va revoir d'ailleurs dans l'exposition qui les tient à la main chez lui. Et il n'y a pas de ressemblance, mais il y a de la peinture. Et en fait, ce qu'il y a dans ce parcours, c'est, bien sûr, ce qui est évident, ce que ça démontre d'une certaine manière, sans vouloir chercher à pointiller, c'est-à-dire à chercher est-ce qu'il y a une référence exacte, et il y a une citation quelque part qui rapporterait que ce tableau est bien dans le giron du douanier Rousseau. Il y a cette idée que l'exposition, c'est une phrase simple, c'est d'où il est parti, où il est arrivé. Et là, on se dit, le type a été obstiné, insatiable et indomptable. Et son œuvre est indémontable et indémodable dans la mesure où il est arrivé. Alors, Jean-Max parle du lys. En fait, il est arrivé à créer l'écran du rêve. Et ce par quoi je crois qu'il y est arrivé, parce qu'effectivement ce sont des visions, moi j'ai pris un plaisir assez grand, je dois dire, à être comme dans le plaisir d'un détail dans une peinture renaissante. C'est-à-dire que vous êtes en train de regarder, par exemple, le parterre du paradis, les fleurs et les fruits. Et vous êtes complètement dans un grossissement. Et en fait, il peint par des bouts de grossissement. Il s'arrête et il peint l'œil d'un éléphant derrière des feuilles, puis il peint un œil dans des... je me rappelle plus, le rêve. Par exemple, il peint la guerre et vous voyez sous un pli de genoux, vous voyez un œil qui saigne. Et en fait, vous êtes tout le temps en train de regarder morceau par morceau. Et en fait, je crois qu'il est arrivé à la puissance de ces tableaux de la fin, qui sont non seulement lisses, mais qui sont extrêmement homogènes, qui ont un velouté dans la picturalité, dans la chromie, qui sont très bien équilibrés. Et là, on voit bien tout ce que Max Ernst a vu de ces jungles. Et on voit bien même le Brunner qui reprend la charmeuse. Et on voit que, par exemple, le tableau de Brunner ne tient pas à côté de la charmeuse de
Douanier Rousseau.
Mais par contre, quand vous voyez un Cézanne nature morte, un compotier Cézanne, un cubisme nature morte aussi de Picasso, et au milieu, une nature morte de Douanier Rousseau, ça tient. C'est-à-dire que ce type, finalement, finit par vous dire « Mais je suis un peintre. » Et qui tient au milieu de tout ça, c'est-à-dire des gens qui sont en train de chercher la surface par quelques moyens que ce soit. Et donc, lui, dans l'autodidacte qu'il a, il n'a pas visé la surface pour la surface comme un plasticien. Mais par contre, je crois que ceux qui l'ont regardé, les contemporains, hein, les peintres, ont vu qu'il est arrivé à tenir la surface, je dirais, comme une épreuve dont il n'avait pas conscience, mais il a achevé son rêve sur cette jungle. Et cette jungle, c'est vraiment la manière dont il a absolument organiser son langage qui est fait de ces fragments, de ces morceaux, et à force de regarder bout par bout, il est arrivé à trouver l'unité. Il lui a fallu une trentaine d'années pour ça, puisqu'il a commencé à peindre à 40 ans. Mmh. Et ben je me dis, il est parti de trucs waouh, et on est arrivé à chapeau le douanier Rousseau.
Chapeau de Denis Rousseau. Encore un commentaire, non, Jean-Max Collard, on va conclure.
Corinne a tout à fait raison, et elle dit quelque chose qui est intéressant par rapport justement à cette relation avec Picasso. Il y a une phrase extraordinaire du douanier Rousseau qui dit, nous sommes les deux plus grands peintres de l'époque, oui. Toi dans le genre égyptien, il dit ça à Picasso, et moi dans le genre moderne. Mais ce qu'on entend chez ce que dit Corinne, c'est qu'effectivement, Picasso c'est quand même celui qui essaie de sortir aussi de la perspective par le cubisme. Et au fond, le douanier Rousseau, par ses moyens autodidactes, par sa manière de voir disproportionné, etc., eh bien, il démonte aussi à son tour la perspective, il passe à côté et il cherche un autre système du voir. Enfin, ou en tout cas, il accède à un autre système du voir. Et ça, c'est intéressant. Il y a un autre point qui, moi, me semble très intéressant, c'est le fait qu'au fond, c'est peut-être l'un des premiers peintres à s'inspirer d'imagerie populaire, parce qu'il travaille à partir d'albums illustrés d'animaux produits d'ailleurs à l'époque par les galeries Lafayette. Il va au jardin des plantes aussi et au musée d'histoire naturelle pour voir les animaux et les plantes, mais il s'inspire beaucoup de photographies, y compris de cartes postales, ça. Donc il y a toute une imagerie populaire dont il ne fait pas d'ailleurs façon un peu Baudelaire, il ne s'en sert pas comme d'un auxiliaire pour restituer une vision réaliste du monde, mais il a un usage pictural et onirique de la photographie, qui fait qu'il s'en détache aussi considérablement, mais néanmoins, ça participe de cette exactitude, de cette limpidité de la vision intérieure. Et là, quand même, là aussi, il y a quand même une vraie modernité, enfin, il y a quelque chose de quand même assez étonnant, ne serait-ce que cet usage des documents.
Dernier mot, Corinne Rondeau.
La leçon de Denis Rousseau, c'est... Jean-Marc parlait de maladresse, voilà, ben, il en a fait quelque chose. Je pense que ça pourrait valoir pour d'autres artistes aujourd'hui. Faire quelque chose de ces maladresses, c'est-à-dire dans la durée, il y a des choses qui tiennent debout.
Le douanier Rousseau, l'innocence archaïque, c'est au musée d'Orsay jusqu'au 17 juillet. Visiblement, il y a un catalogue volumineux. J'imagine que vous n'avez pas encore eu le temps, parce qu'il est tout frais sorti des presses, de vous y plonger. Mais c'est sans doute un ouvrage à consulter pour en savoir plus sur le douanier Rousseau.
France Culture.
La dispute.
Arnaud Laporte.